Nous allons écouter Laure Younou sur la socio-esthétique, son rôle auprès des patients atteints de cancer.
Donc, je m'appelle Laure, je suis donc la socio-esthéticienne de l'association Copartage depuis une vingtaine d'années à peu près. Je travaille donc dans nos établissements partenaires en présentiel, donc en service de chimiothérapie, oncologie, soins palliatifs. Et on est également partenaire, donc on est sur Marseille, et on est également partenaire avec le DAC 13 Sud dans leur programme d'éducation thérapeutique. Alors, pourquoi je n'arrive pas? Voilà. Alors, donc je vais faire un petit peu moins court que Jean-Mathieu. J'ai fait un diapo un petit peu plus court. Je voulais d'abord vous parler des soins de support, puisque la socio-esthétique fait partie de ce qu'on appelle les soins de support. Donc, qu'est-ce que c'est les soins de support? En fait, ce sont toutes les interventions qui se pratiquent en parallèle, en fait, des traitements spécifiques et qui visent à améliorer la qualité de vie de nos patients. Donc, dans le panier des soins de support de l'INCa, qui est l'Institut national du cancer, on va retrouver le soutien psychologique, la prise en charge de la douleur, l'activité physique adaptée, l'accompagnement social et la nutrition. Mais dans les soins de support, inclut également la socio-esthétique, mais tout ce qui est socio-coiffure, sophrologie, relaxation, etc. Tout ce qu'on peut vous proposer au sein des établissements ou au sein des associations sur votre territoire. Alors, il me semblait d'abord important de vous parler un petit peu de la socio-esthétique, parce qu'en fait, on confond souvent socio-esthétique et esthétique. Pourtant, ce sont vraiment deux métiers à part entière. En fait, vraiment, la socio-esthétique, ça va être la pratique de l'esthétique auprès de populations fragilisées et en souffrance par une atteinte à leur intégrité, pardon, qu'elle soit physique, psychique ou sociale. Donc, moi, j'ai choisi de me spécialiser en oncologie. Donc, vraiment, l'esthétique, pour moi, va devenir un outil pour pouvoir accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins. Et bien sûr, je travaille en constante collaboration avec les équipes soignantes. Donc, pour intervenir en tant que socio-esthéticienne, il faut une double compétence. Donc, avoir une expertise en esthétique, hein, pour pouvoir maîtriser l'outil, mais également des compétences spécifiques acquises lors de formations complémentaires. Et donc, il y a bien sûr un cadre réglementaire autour de cette profession. Donc, on doit d'abord être diplômé en esthétique et avoir au minimum un an d'expérience, et ensuite soit avoir le titre, un certificat professionnel de socio-esthétique au RNCP, soit un DU de socio-esthétique. Alors, il existe une association qui s'appelle l'AFSOS, qui est l'Association francophone des soins oncologiques de support. Donc, c'est une société savante qui a été créée en 2008 à l'initiative, en fait, de cancérologues qui avaient vraiment à cœur d'améliorer le confort des patients pendant leur parcours de soins. Donc, sur le site de l'AFSOS, en fait, sont hébergés tous les référentiels de soins de support, dont la socio-esthétique. Et l'objectif de ces référentiels, c'est vraiment d'uniformiser, d'harmoniser la pratique de la socio-esthétique au niveau national, de consolider la place de la socio-esthéticienne dans le parcours de soins du patient, mais aussi auprès des équipes soignantes, et surtout aider les équipes pluridisciplinaires à nous orienter au mieux les patients. Donc, il y a à peu près 4 ans, en fait, on réactualise à peu près tous les 4 ans nos référentiels. Donc, on a un groupe d'experts qui travaille dessus, et il y a à peu près 4 ans, on a réactualisé notre référentiel, qui a été validé en fait par la SFD, donc la Société française de dermatologie. Donc, c'est aussi notre fierté à nous. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite sur des patientes traitées pour un cancer par chimiothérapie. Donc, c'est un petit peu. Elle date un petit peu, puisqu'elle a été publiée sur une revue scientifique. Supportive Care in Cancer en 2008, mais elle montre que sur 91 femmes traitées par chimiothérapie, 87% d'entre eux ont eu des effets secondaires cutanée, donc que ce soit au niveau de la peau, des ongles ou de la pilosité. Important avec un impact important. Donc en fait, ça souligne vraiment l'importance des soins de support dermatologique en oncologie et le rôle essentiel de la socio-esthéticienne dans l'accompagnement des patients qui sont atteints de cancer. Donc on l'a beaucoup vu avec le docteur L'Orphelin dans sa présentation. Donc la maladie et les traitements sont souvent très agressifs. Ils ont des conséquences au niveau cutané et des fanères. Donc les fanères, c'est tout ce qui est poils et ongles. Et ça va bien au-delà de l'aspect esthétique, hein, puisque en fonction des grades, ça peut engendrer une dégradation de l'état général et de ce fait entacher la qualité de vie de nos patients. Donc quel que soit le traitement, que ce soit la chimiothérapie, les thérapies ciblées, l'hormonothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie, enfin tout ce qu'on peut retrouver en cancérologie, ça va avoir un impact important au niveau de la peau et des fanères qui va générer chez le patient en fait une dépréciation de l'image de soi et par la force des choses une altération de l'estime de soi. Donc ces effets secondaires sont souvent vécus comme stigmatisants.
Attends.
C'est... Il y a un problème? Donc ces effets secondaires sont souvent vécus comme stigmatisants. C'est vraiment le premier stigmate du passage de la maladie et des traitements, notamment dans l'alopécie. Hein, c'est ce que disait le docteur L'Orphelin tout à l'heure, c'est que c'est vraiment la première question qu'on pose quand on a un diagnostic de cancer. Et dans certains grades, en fait, ils peuvent vraiment induire une diminution des traitements, voire un arrêt précoce des traitements. Voilà, pardon. Et notamment dans le cadre des thérapies ciblées qui ont tendance à majorer un peu ces effets indésirables. Donc là, c'est un schéma qui est tiré du référentiel de l'AFSOS qui montre en fait que pour accompagner au mieux nos patients pendant leur parcours de soins, le travail collaboratif entre tous les acteurs du soin est crucial, notamment avec l'oncodermato. Malheureusement, il n'y a pas d'oncodermato dans tous les établissements. Où on traite la cancérologie. Donc, c'est là où la pluridisciplinarité va prendre tout son sens, puisque la socio-esthéticienne peut être sollicitée donc, par les oncologues, mais aussi par les autres soins de support, par les kinés, par les soignants, tout simplement. Et en fait, en collaboration avec les soignants et sous couvert donc, des médecins, après validation des médecins, on va vraiment mettre en place des protocoles donc, déjà de prévention, mais également curatifs, avec un suivi et une surveillance en fait, des effets indésirables. Alors, et dans le cadre, bien sûr, de toxicité trop avec de grades trop importants ou évolutives malgré en fait la prise en charge, notre rôle ça va être bien sûr en fait d'orienter vers les oncodermatos des autres établissements avec qui on est en lien et souvent en fait ils ont quand même des créneaux pour les urgences pour pouvoir recevoir nos patients. Donc j'ai le cas pour vous donner un exemple. Ce matin j'ai vu une patiente donc qui a commencé en fait qui nous a parlé de ses effets secondaires la semaine dernière, où effectivement elle a vraiment des toxicités ungueyales au niveau des ongles importantes dues au taxane, avec donc une surinfection au niveau de l'ongle. Donc on a vu avec le médecin, on a essayé de mettre un protocole en place. Aujourd'hui, je l'ai revu. Donc effectivement, il n'y a aucune évolution, qu'elle soit majeure ou positive ou négative, mais on a. Donc le médecin a changé un petit peu le protocole et c'est vrai que ce matin, j'ai dit à la patiente, la semaine prochaine, on refait un point et si ça ne va pas, il faudra aller voir un oncodermatologue. Donc en fait, c'est ce schéma, tout ça pour vous dire que la pluridisciplinarité dans la prise en charge du patient est essentielle en oncologie. Alors, je n'arrive pas à... Hop. Ah voilà. Voilà, pardon. Donc, pour éviter, en fait, et retarder au maximum ces effets indésirables, il est vraiment nécessaire de mettre en place une démarche de prévention précoce. L'idée, c'est vraiment de minimiser au maximum les effets indésirables et de les retarder. Donc l'anticipation des effets secondaires en fait des patients nous permet de les rendre acteurs en fait dans leur prise en charge en mobilisant leurs ressources. En fait, on va les prendre en charge en service, mais d'abord, il n'y a pas forcément une socio-esthéticienne ou tous les jours dans les services, mais à la maison, en fait, il faut que le patient soit autonome en fait dans sa prise en charge. Et c'est souvent en fait quelque chose qui vient se rajouter en fait à tout ce qu'ils peuvent vivre en fait pendant leur parcours de soins. Donc, en fait, quand ils ont une meilleure connaissance des effets indésirables, parce que souvent on a tendance à banaliser un petit peu ce qui peut se passer, mais du coup, quand on va les sensibiliser en fait aux effets indésirables, ça va permettre d'augmenter leurs adhésions au protocole de prévention. Donc, plus les patients vont connaître les effets secondaires, mieux ils vont intégrer les protocoles de prévention, ce qui va contribuer à maintenir leur qualité de vie. Donc, les mesures de prévention vont limiter en fait l'évolution des grades et du coup limiter aussi l'escalade thérapeutique. Et la socio-esthéticienne, en fait, va gérer les grades légers à modérés. Et quand on arrive à limiter, en fait, un petit peu les grades, du coup, ça va alléger les sollicitations auprès des spécialistes forcément alléger aussi leur charge de travail. Donc, vraiment, pour nous, en fait, en tant que socio-esthéticienne, la prévention, ça reste une de nos priorités. Alors, la socio-esthéticienne, elle a trois grands objectifs. Donc, la reconnexion au corps. Donc, vraiment, la perception du corps change avec la maladie et les traitements. Ça souligne, la maladie va souligner vraiment une fragilité aussi bien physique que psychique, avec un mélange vraiment de vulnérabilité et de force. Donc, il y a beaucoup de patients qui nous décrivent, en fait, comme un sentiment de trahison, comme si elles étaient le corps en fait leur corps ne leur appartenait plus, elles étaient un peu spectatrices de ce qui se passait. Alors comme un peu une perte de contrôle de leur propre corps. Pourtant, je pense qu'il est important en fait de rester en lien, de maintenir le lien et l'alignement entre le corps et l'esprit afin en fait de redevenir acteur en fait de son vécu. De mieux traverser les traitements et de retrouver en fait une identité vivante, mais au-delà en fait de la maladie. Donc pour pouvoir apprivoiser et réinvestir ce nouveau corps, en fait, il faut renoncer aussi à son ancienne identité, ce qui amène souvent à une question existentielle, c'est qui suis-je? Les patients se questionnent souvent sur eux, en fait, sur la venue de la maladie, de ce corps qui les a trahis. Ils vont souvent remettre en question leurs habitudes de vie, mais aussi leurs relations aux autres, et surtout, en fait, comment faire et comment accepter ce nouveau moi. Donc, nous, en tant que socio-esthéticienne, on va les aider à se reconnecter à leur corps et on va travailler en parallèle avec les oncopsychologues pour tous ces questionnements profonds. Et tous ces changements physiques vont engendrer en fait une modification de l'image. Donc ça, tout ce qui est revalorisation de l'image, et ça va entraîner des répercussions en fait, comme une atteinte dans son identité, que ce soit dans sa féminité ou dans sa masculinité. On a aussi, pardon, des patients hommes qui en souffrent beaucoup, une diminution de l'estime de soi avec un sentiment vraiment de dévalorisation. Et par la force des choses, une baisse de confiance en soi. Donc, en fait, vraiment pour éviter, on a beaucoup de patients, en fait, qui, par rapport à l'impact sur l'image, vont avoir tendance à s'isoler et à ne plus à ne, refuser, en fait, le lien avec leurs proches. Donc, vraiment pour éviter l'isolement social, on va accompagner les patients et leur transmettre les outils nécessaires pour qu'ils continuent à valoriser leur image, leur démontrer en fait que c'est possible qu'ils restent des personnes à part entière en fait malgré tous ces changements corporels. Et on l'a déjà vu dans les diapos précédents, donc la maladie, les traitements engendrent de nombreuses conséquences. Donc les soins socio-esthétiques visent à améliorer le bien-être global des patients, et avoir avec une meilleure tolérance des traitements. Et surtout, ça renforce la qualité. L'idée, c'est vraiment de renforcer la qualité du parcours de soins du patient. Et donc, pour les accompagner sur leur cheminement, on va et accepter leur nouvelle image. On va allier le toucher, je sens donc je suis et les soins de peau. Alors, pour pouvoir accompagner au mieux le patient autour de tout ce qui est autour de son corps et de son image, on va travailler en pluridisciplinarité avec d'autres soins de support, donc que ce soit tout ce qui est nutrition, l'accompagnement psychologique, la sexologie, l'activité physique adaptée, tout ça, c'est complémentaire. Donc, on va vraiment travailler en collaboration autour du patient. Donc là, cette diapo est tirée de ce qu'on appelle les fiches de bonne pratique. Donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur l'AFSOS, par rapport au référentiel, on a tiré en fait des fiches de bonne pratique par rapport à chaque pathologie d'effet indésirable, qui est donc ces fiches sont téléchargeables en fait sur le site de l'AFSOS. Pour les professionnels, mais également pour les patients. Et toutes ces fiches ont été validées par la Société française de dermatologie. Donc, on va disposer bien sûr de différents outils pour pouvoir accompagner au mieux nos patients. Donc, pour tout ce qui est toxicité des ongles, donc toxicité ongulaire, on va avoir des protocoles de prévention et de prise en soin aussi de tout ce qui est soins réparateurs. Donc, les soins des ongles vont permettre d'éviter les complications et d'améliorer surtout le confort des patients, puisque quand on a des toxicités ongulaires, on l'a beaucoup vu avec le docteur L'Orphelin, on a vraiment du mal ça peut entacher vraiment sa qualité de vie, c'est-à-dire boutonner un pantalon peut devenir compliqué. Et pour tout ce qui est toxicité cutanée, on va vraiment essayer de maintenir l'hydratation de la peau, hein. Je parle aussi beaucoup d'hydratation à mes patients pour venir restaurer en fait la barrière cutanée et éviter en fait l'inconfort, mais également préserver l'image de soi. Donc ça, on va allier également tout ce qui est soins de confort en alliant le toucher et l'hydratation. Tout ce qui est les soins de peau en fait vont aider le patient également à se réapproprier son corps et ils vont limiter les effets indésirables tels que les irritations, l'axérose, donc tout ce qui est sécheresse cutanée, les démangeaisons, les lésions, etc. Donc on va utiliser aussi pour tout ce qui est revalorisation de l'image la technique du maquillage correcteur. Donc on va pour pallier donc tout ce qui est chute des cils, chute des sourcils, correction de teint, mais également la folliculite dont il a parlé, dont le docteur L'Orphelin a parlé tout à l'heure, tout ce qui est cicatrice. Le but de l'automaquillage, c'est vraiment que la patiente arrive à se reconnaître à nouveau dans le miroir. Qu'elle s'accepte en fait avec cette nouvelle image et qu'elle est surtout en fait l'idée c'est que elle est surtout les clés pour pouvoir le mettre en pratique dans son quotidien hein, puisque quand on va le faire c'est bien les patients sont contents mais l'objectif c'est vraiment qu'elles arrivent à le reproduire en fait dans leur quotidien. Donc on va pour tout ce qui est reconnexion au corps, on va beaucoup utiliser ce qu'on appelle le modelage. Donc le modelage, c'est vraiment le massage non thérapeutique. Donc le toucher, c'est vraiment un moyen de communication extraordinaire. Tout ce qui ne passe plus par la parole va passer par le contact corporel. Donc nous, on a vraiment cet outil-là qui est magique. Ça permet souvent de libérer des mots, mais de soulager des mots MAUX aussi. Donc, le toucher va vraiment favoriser une reconnexion positive au corps. La peau, c'est vraiment la première limite entre soi et le monde extérieur. Elle est vraiment une enveloppe protectrice qui permet à la personne de se sentir en sécurité et unifiée. Et lorsqu'elle est fragilisée, en fait, par la maladie ou les traitements, les soins et le toucher bienveillant vont aider à restaurer, en fait, ce sentiment de protection et de bien-être. J'ai du mal à passer les diapos, excusez-moi. Voilà. Alors ça, c'est un schéma sur la prise en soin de la cicatrice qui est issu des laboratoires. Je l'utilise parce que c'est un schéma assez complet. Donc nous, en fait, on va vraiment, en tant que socio-esthéticienne, on va accompagner nos patients en leur expliquant, en fait, la marche à suivre pour automasser, en fait, ces cicatrices, hein. Donc on va leur expliquer les manœuvres et surtout le timing, en fait, à quel moment, en fait, on peut commencer à mettre de la crème, à masser ces cicatrices pour qu'elles deviennent le plus souples possible. Mais surtout, on va réorienter aussi vers des professionnels spécialisés comme le réseau, notamment dans le cancer du sein, hein, mais il y a d'autres pathologies, mais dans le cancer du sein, on va vraiment orienter vers le réseau RKS. Donc, c'est les réseaux du kiné du sein qui sont vraiment spécialisés en sénologie pour pouvoir accompagner nos patients dans la prise en charge de leurs cicatrices. Alors, il y a de plus en plus de socio-esthéticiennes qui intègrent les programmes, ce qu'on appelle d'éducation thérapeutique du patient, qui s'articulent autour des soins de support. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre le patient acteur de sa prise en charge. Donc, nos séances, en fait, elles vont s'axer essentiellement sur tout ce qui est automaquillage, comment on prend soin de sa peau, tout ce qui est prévention, comment on gère les toxicités, qu'elles soient au niveau du syndrome main-pied, au niveau des ongles, au niveau des rages cutanées, etc. Donc, depuis un an, nous, avec l'association Copartage, on a intégré le programme d'éducation thérapeutique du DAC 13 Sud, qui est à destination, en fait, des patients de ville, c'est-à-dire que c'est tout établissement confondu. Et pour faciliter, en fait, l'accès à nos séances, on va proposer, donc, soit sous forme d'atelier, soit sous forme de séances individuelles, mais on les propose aussi bien en présentiel qu'en visio. Et vraiment, l'idée de l'éducation, notre objectif premier, c'est vraiment de rendre le patient autonome dans sa prise en soin et dans sa prise, dans son parcours de soins, en fait. Donc là, en fait, cette diapo, elle va vraiment, elle met vraiment en évidence les besoins du patient, donc notamment le maintien, ben, de sa qualité de vie. Je crois que c'est vraiment, enfin, le patient, il a vraiment envie de continuer à vivre, en fait, au-delà, en fait, des traitements et de la maladie. Donc vraiment, le maintien de la meilleure qualité de vie possible. Donc elle souligne l'importance de conserver, en fait, une intégrité physique le plus longtemps possible afin vraiment de préserver le lien social. On a des patients qui continuent à travailler, qui ne sont pas forcément en arrêt maladie. Donc c'est important pour elle de continuer, en fait, à se reconnaître à travers ce miroir malgré tout. Ses effets secondaires et surtout arriver à se réapproprier ce corps avec tous les changements que la maladie et les traitements incombent, en fait, hein. Donc les soins socio-esthétiques vont répondre à ces besoins en favorisant le soin de soi, mais surtout le désir de prendre soin de soi en restant, en fait, acteur vraiment de sa prise en charge. Notre victoire, c'est quand le patient, en fait, même au-delà de la maladie et en post-cancer, continue à prendre soin de soi et à vraiment intégrer l'importance de le faire. Et surtout, il prend plaisir, en fait. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à prendre plaisir pour prendre soin de soi. Donc ça, ce sont les nombreux témoignages de patientes qui ont bénéficié de soins socio-esthétiques. Donc c'est évidemment extrêmement gratifiant. On a un métier très, très gratifiant. Voilà. Et donc pour finir, notre rôle aussi, ça va être de réorienter nos patients sur le territoire. Donc que ce soit au niveau des réseaux professionnels comme le RKS, des associations comme la Ligue contre le cancer, comme GPS Cancer, etc. les professionnels de ville comme les CPTS ou le DAC 13 Sud, les centres thermaux, notamment, on oriente beaucoup sur les cures post-cancer. Hein, on sensibilise beaucoup nos patients à ça parce qu'on pense que c'est très bénéfique pour eux. Donc, tout ce qui est, bien sûr, les sociétés savantes comme l'AFSOS, mais également les pharmacies. On a de plus en plus de socio-esthéticiennes qui se trouvent au sein des officines. Et on a de plus en plus, en fait, de professionnels aussi, comme les pharmaciens ou les préparateurs, qui sont formés, en fait, qui sont spécialisés en oncologie et formés à la gestion des effets indésirables. Et voilà. Merci beaucoup. Je vais arrêter le diaporama. Le partage, pardon.
Beaucoup, Laure. C'était très joli ce mot de la fin en disant qui remettait aussi le fait que les personnes pouvaient agir, qu'on reste aussi sur une note positive parce qu'on a bien compris que ce n'est pas des moments très faciles, mais qu'en fait il y a aussi des solutions et que la socio-esthéticienne en est une. Et que ça doit justement donner envie, en fait, de se dire, restons dans la vie, profitons aussi de ce qui nous est proposé. Et c'est merci d'avoir aussi partagé tous les liens qui permettent aussi d'avoir d'autres ressources pour accompagner le